Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet. À retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. À ma gauche, le Sean d'Addict se revendiquant comme tel, Ronan Crowe. À ma droite, le doppelganger d'Eleven dans Stranger Things, Romain Burel. Bonjour messieurs.
Salut, bonjour.
De pire en pire pour les présentations, tant que vous le sachiez. Au menu du jour, le retour de l'excellente, oui, j'ai choisi mon camp, série politique de Canal+, Baron Noir, une saison 2 signée Éric Benzekri, Jean-Baptiste Delafont. On se met en marche juste après l'info du jour. Détails sur ce qui s'annonce à mon humble avis comme l'une des séries les plus excitantes de l'année. Truth Seekers, c'est son titre, les aventures de trois personnes qui font équipe pour enquêter sur des événements paranormaux. Et si attente il y a, c'est qu'à l'origine de ce projet, on trouve Simon Pegg et Nick Frost, le duo britannique magique à l'origine de Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou Le Dernier Pub avant la fin du monde. Science-fiction et rigolade, chaque épisode de Truth Seekers aura une intrigue paranormale différente et bouclée à la fin de l'épisode. Bientôt une réponse différente au dilemme « Well, there's something strange in your neighborhood, who you gonna call ?»
On peut se voir vite ?
C'est trop risqué, là. Si on nous voit ensemble, c'est fini pour moi.
Fais comment, alors ?
Je t'ai rien promis, Philippe.
De toute façon, toi et moi, on n'a plus le droit que de discuter, non ?
Coucou, papa.
Alors, Londres, ça va ?
C'est quoi, ce bruit ?
Non, c'est rien, c'est rien. Vous savez ce que c'est de vivre avec ça ?
C'est pas moi qui ai fixé le montant de votre caution, 60 000 euros, monsieur.
Je n'ai pas peur d'être une républicaine. Je n'ai pas peur de vous.
Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai qu'une idée en tête. Refaire l'union de la gauche pour qu'Amélie soit forte face au Front National. Je te donne ma vision, mon avis, mes idées. Et après, c'est toi qui agis. L'OPS ne peut plus rien faire sans toi. C'est ton moment.
Le Baron Noir, c'est Philippe Rigvart, c'est Cadmerade, ex-député du Nord, fin politicien roublard, envoyé faire un détour par la case-prison à la fin de la saison 1. Malversation quand tu nous tiens. Après avoir purgé sa peine, il est donc inéligible. Pas de quoi lui faire arrêter la politique et ses intrigues. Il devient l'artisan de la victoire, puis conseiller de l'ombre d'Amélie de Rendeux. C'est comme ça qu'il faut le dire. Présidente de la République, pas franchement un long fleuve tranquille. PS, ton univers impitoyable. Une saison 2 100% politique vous a-t-elle convaincu de voter pour elle, messieurs?
Ouais, vraiment. Je pense que c'était un vrai défi de revenir en saison 2. C'est-à-dire que, pour le coup, on comprenait bien évidemment qu'il y aurait une suite à cette histoire, mais le Baron Noir aurait pu être une mini-série, c'est-à-dire un portrait de l'implosion du PS et une sorte de docu-fiction autour de la politique française des années 2010. Et là, je trouve qu'ils font un bond en avant, c'est qu'on est passé finalement d'une fiction sur la politique à de la politique-fiction. C'est-à-dire qu'ils ont réussi en fait à jouer la carte de la surprise, d'imaginer des choses. Ce qui est drôle, c'est que la série a été écrite, on le sait, à partir de janvier 2016, et donc en gros, ils ont quasiment annoncé ce qui allait se passer. C'est-à-dire que on a l'impression en fait qu'ils ont tellement collé à l'actualité que en fait c'est une série opportuniste. Et en fait, ce qui est plus intéressant que ça et ce qui est plus malin, c'est qu'en fait il y a une intuition. Alors noyée, on verra dans des choses qui sont à mon avis peut-être moins précises, mais il y a une espèce d'intuition, un fil ténu dans cette saison 2 qui donne un miroir grossissant de la France, qui est assez intéressant.
Vous parlez de politique fiction, de fiction politique, parce que c'est une femme qui est présidente en fait.
Ça,
vous n'êtes qu'un infâme phallocrate.
Évidemment, mais surtout une politique fiction dans le sens où ce que ça raconte, à mon avis, s'éloigne de plus en plus de la vision réelle, réaliste qu'était la saison 1.
Romain, convaincu aussi ?
Moi, j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé. J'ai plus de réserves quand même. Je trouve que la saison est vraiment bien écrite. Effectivement, il y a énormément de politique. Moi, ce sera mon premier point noir, c'est que quand même, en fait, il y a plus beaucoup d'humains, quoi. On parle énormément de politique. Ces gens-là n'ont plus de vie privée. Et plus de vie privée, c'est très dur au niveau de l'architecture des personnages d'arriver à nous intéresser. Si à un moment donné, la vie ou la mort du parti socialiste ne vous intéresse pas, ça va être compliqué pour vous de regarder cette politique. C'est même assez indigeste, je trouve. Comparé à la saison 1, où effectivement on était plus sur les affaires, etc., mais où il y avait. Il y avait de la vie privée, il y avait un petit peu d'affect, il y avait un peu plus d'histoire de fesses aussi.
Et voilà, ça manque. Mais ouais, c'est ça qui manque.
Bah de l'humain, en fait, quoi.
Dis-le, c'est de la fesse.
Ouais, la fesse, c'est humain aussi. Donc, mais voilà, je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans cette série-là. Et en même temps, je suis à peu près persuadé que cette catégorie du personnel politique en a absolument rien à foutre de son entourage et peut très facilement jeter toute son énergie, absolument toute son énergie dans sa vie politique.
Je trouve qu'ils deviennent vraiment des personnages plus grands que la vie. C'est-à-dire que dans la première saison, on avait quand même déjà une première idée qui était quand même très forte, c'était que ça ne se passait quasiment pas à Paris et qu'on racontait aussi la politique en région, ce que ça signifiait, l'importance que ça avait.
Là, il y a quand même du Nord.
Et voilà, il y a quand même une grande partie de la série qui se passe à Paris. Et surtout, les personnages sont devenus presque des espèces de personnages shakespeariens, complètement cinglés. Tu faisais très très bien Anna Mouglalis en présidente de la République, mais Anna Mouglalis, elle est parfois à la limite de la méchante dans V. Vous vous souvenez cette série V sur les lézards? Elle parle, il y a des moments où on se dit, oh, en fait, c'est une reptilienne qui s'est.
Elle parle, elle fume.
Je trouve ça très audacieux de leur part, c'est-à-dire de pousser les curseurs, parce qu'en fait, en poussant vraiment au maximum la fiction, en poussant l'outrance, en poussant le fait que Philippe Rigvart, c'est une sorte de Lao Tzu, c'est-à-dire d'une espèce de personnage à la fois très sage et qui très stratège, mais il y a un truc, il se passe un truc, en fait.
Alors, de Lao Tzu, je veux bien, mais qui parle comme. Audiard, quoi, parce que
c'est ça.
Il y a une réplique à la Audiard toutes les deux secondes, et moi, c'est aussi ça qui m'a un petit peu déçu. Ça me fatigue un peu. J'ai l'impression de regarder un peu un stand-up sur la politique, et à un moment donné, ça fatigue vraiment les oreilles, quoi.
Je comprends ce que tu veux dire en parlant d'une série assez sèche finalement, puisqu'on a effectivement vidé toute la série de sa substance humaine, émotionnelle, etc. Mais en fait, c'est des personnages qui sont complètement dédiés à ce qu'ils font. Et c'est une série qui est quand même axée sur le verbe. Est-ce qu'une série avec juste du verbe, ça suffit à faire une bonne série?
Ce qui est fort, c'est que c'est un western politique, en fait. Ce qui est un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnages qui s'affrontent. C'est presque duel à Hockey Corral, sauf que leur duel fonctionne sur le langage, sur le mot, sur l'utilisation d'un mot. Ça, c'est très fort de raconter ça. Évidemment qu'on pense à Aaron Sorkin et on pense à la Maison Blanche.
Walk and talk.
Exactement, walk and talk. Alors là, c'est walk, bois un café and talk. C'est-à-dire
walk, smoke and talk.
C'est ça.
Ça marche.
C'est-à-dire qu'il y a des effets, il y a une espèce de café qui est le QG du personnage. Qui est très artificiel. Mais moi, en fait, ce qui me plaît vraiment dans cette saison 2, c'est que l'artificialité, qui est assez dérangeante au début, devient une sorte de force de la série parce qu'on comprend qu'ils sortent du réalisme. En fait, ils sont empêtrés par la politique et par la politique réelle. C'est un peu comme les États-Unis avec Trump, c'est-à-dire comment faire une fiction politique alors que la politique réelle est déjà devenue une fiction. Je sais pas si on me suit là.
Ça, je trouve que c'est le principal problème de cette saison-là, c'est que juste, ils ont un peu le même souci que House of Cards avec la saison 4. C'est-à-dire, à partir du moment où Donald Trump arrive, qui est un personnage complètement disruptif, qui arrive dans la vie politique, ça marche moins.
Ben oui.
Et là, après les élections présidentielles, après l'explosion atomique des partis politiques, après l'affaire Fillon, après la mort clinique du PS, et toutes ces choses-là nous semblent moins intéressantes, je trouve, en tout cas. Notons quoi, qu'est-ce qui change, c'est le fait que ce soit une femme qui soit présidente. Je trouve pas que ça, par exemple, ce soit très très bien exploité dans la série.
Pas du tout utilisé,
ouais.
En fait.
Je trouve que, par exemple, c'est assez fou d'avoir réussi à faire élire une femme présidente dans une série sans jamais évoquer le machisme en politique, ou alors d'une manière vraiment d'une ligne. Quand on connaît le monde politique français et le fait que ce ne soit jamais arrivé, c'est assez dommage.
C'est écrit par deux hommes aussi.
Alors, je voulais pas leur faire ce reproche-là, mais j'y ai pensé très fortement.
Mais ça aussi, ça apporte de l'eau au moulin de gens qui disent l'inclusion et le questionnement de l'inclusion dans l'écriture vient aussi d'un changement de perspective. Je pense qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'effectivement, dans la perception qu'on a de la série, et c'est marrant parce la série a donc été diffusée hier, les premiers épisodes, et Élise Lucet a tweeté en disant.
Je les ai notés. La seule chose que les scénaristes de Baron Noir aient écrite et qui ne soit pas vérifiée, c'est qu'une femme soit élue présidente de la République. Tweet d'aujourd'hui, réponse de Ségolène Royal.
Voilà.
En effet, trois petits points.
Elle a un sens de la punchline, Ségolène Royal. Mais ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont raté un truc avec ce personnage d'Amélie de Rendeux, qui est un personnage un peu. C'est quand même une histoire d'une femme qui est un peu manipulée par des mecs en permanence qui lui disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu fasses ci. Ça m'a fait penser, vous pensez que je suis un peu obsessionnel, ça m'a fait penser à The Crown, la série, la saison 2, où en fait on avait cette même idée.
Il a un point The Crown.
Mais j'ai un point
The Crown. Quel que soit le sujet, il y a un moment.
Dans ma vie en général, à la cantine, The Crown, tout ça. Mais il y a vraiment un truc sur cette femme qui est censée être le centre du pouvoir, et en fait la série le déplace et te montre qu'en fait elles sont toutes. Enfin, elle est toujours manipulée par des hommes, c'est des mecs qui la conseillent, c'est Rick Vart qui la manipule, c'est l'espèce de pseudo Bayrou qui est joué par Pascal Elbé. Il y a un truc qui parle d'une forme de misogynie, mais sans jamais la dénoncer. Ça, je suis d'accord avec Romain, c'est qu'il aurait peut-être fallu un petit coup de pouce supplémentaire là-dessus, un petit coup de stabilo.
Et moi, j'ai même eu l'impression que c'était une difficulté scénaristique de lui donner du corps, en fait, à ce personnage-là, à le faire exister. J'ai du mal à croire qu'on arrive présidente de la République en se laissant autant manipulé par des hommes.
Puis avec ce tailleur gris, pardon, mais à un moment, le jour de son institution, elle a un tailleur gris. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit non.
Pourquoi ?
Parce qu'il est moche, ce tailleur gris.
Ah oui, d'accord.
Mais elle arrive à l'institution.
Pas sur une analyse.
C'est-à-dire qu'on sent que la série ne veut pas la féminiser au maximum. C'est-à-dire qu'on a Anna Mouglalis, qui est quand même une femme extrêmement sensuelle. Et en même temps, il y a tout un jeu où elle n'est jamais. Elle est sensuelle et féminisée dans les scènes privées. Mais en même temps, dans la représentation, on sent qu'ils ont un problème avec. Ils ne questionnent pas ça.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus.
C'est bien dommage.
Que je trouve que le fait de ne pas souligner le machisme en politique, c'est plutôt un témoignage de. Je pense qu'ils créditent leurs téléspectateurs d'un peu plus d'intelligence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le surligner, c'est montré, en fait. On le voit qu'elle s'est fait manipuler par cette bande de bonhommes.
Ça ne marche pas parce qu'ils sont d'une violence extrême entre eux, en permanence, tout le temps dans la vulgarité, voire l'obscénité. Ils se traitent de tous les noms en permanence, etc. Et, par contre. Le personnage féminin n'a jamais attaqué là-dessus, jamais en. Enfin voilà, il y a une espèce de déférence vis-à-vis d'elle.
Mais parce qu'elle est élue maintenant, elle n'est plus en campagne.
Oui, mais les épisodes justement qui amènent à son élection, il y a toutes ces scènes autour de la piscine, il y a une espèce de truc un peu pseudo-thriller érotique, ils se retrouvent dans la piscine, ils parlent, et vraiment je me suis dit, mais où ils vont ? Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Amélie de Rondeau, en fait, elle est beaucoup plus trouble que ça, parce qu'on sent qu'elle utilise un pouvoir qu'elle a sur Philippe Rigvart, mais en même temps, ça va pas plus loin que ça.
On l'a vu dans la saison 1.
Mais voilà. Mais
c'est pas un personnage qui est non plus 100% archiclé.
Non, mais je trouve que ça manque d'une petite touche supplémentaire qui aurait rendu ça un peu plus polémique, en fait. On sent que là, ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec les codes de la fiction française, de la fiction politique, la manière dont les personnages parlent, effectivement, comme dit Romain, une espèce de surécriture un peu à la Audiard pour former la réalité, mais qu'en fait le point qui aurait été le plus fiction, c'est-à-dire effectivement cette femme élue présidente de la République, ça les intéresse pas. C'est une histoire de mec en fait.
Alors puisqu'on parle du verbe, celui qui en a quand même le plus à apprendre, à déclamer, c'est Kadmerad dans le rôle titre.
Okay, très bien,
que
non
vous en pensez?
Ah moi je le trouve assez fascinant parce que ça fait partie de ces. Bon, il y a toujours cette vieille idée qu'en France, quand on est comique, on n'est pas comédien. Mmh. Et en fait, pour le coup, il est vraiment comédien. Et il y a même des passages très intéressants où on le voit jouer la comédie en tant que comme politique. Ça, c'est vraiment.
Notamment la scène où il retourne au QG, où il essaye de faire pleurer dans les chaumières, alors que.
Et ça, c'est en termes de jeu d'acteur, ça m'a assez amusé de le voir du coup surjouer quelque chose, l'émotion, les larmes, ou parfois. Fois même laisser un homme politique venir chez lui et lui voilà jouer l'homme victime et puis on pourra finalement lui asséner ses quatre vérités entre quatre yeux avec beaucoup de vulgarité encore une fois. Là j'ai trouvé que c'était assez intéressant, que c'était un acteur assez intéressant, il a ses yeux tombants, etc. Moi la saison 1 j'ai mis quelques épisodes avant de lui apporter ce crédit-là, je dois avouer. Là, pour le coup, on démarre la saison et on est tout. Enfin,
ouais. Ce qui est très fort, en fait, c'est que c'est un personnage metteur en scène et ce qui est toujours bien, ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de relais. On est un peu complice avec lui, donc on sait que quand il dit quelque chose, on n'est jamais sûr que c'est exactement ce qu'il va dire. Et puis il y a toujours l'idée de, en fait, quel est son secret, quel est le truc derrière ça. Et Merad a un truc qui est très fort et qui est une idée de casting géniale, c'est qu'il est sympathique, en fait. Et tout le concept de Baron Noir, c'était un peu la même chose avec Kevin Spacey. Avant l'affaire Kevin Spacey, c'est qu'on a du mal à le détester. Alors que pourtant, c'est une saloperie, il est vraiment odieux, il manipule les gens, et en même temps, il a une bonhomie, il a un truc de politique en fait. Mais je pense que le rapport entre comédien et homme politique est quand même tellement proche qu'il y a un truc de l'ordre de la séduction chez Merad qui est vraiment très très forte et qui marche dans la série, c'est que, en fait, effectivement, on finirait presque par voter pour lui.
Et alors, il y a un élément dont il joue beaucoup dans cette saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il se montre convaincant. Ou plein d'émotions dans des discours, et sur la scène d'après on le voit juste faire un quart de tour de tête et le visage change. voyez ce que je veux dire, il le répète assez souvent dans cette saison. Il y a un côté très
La scène dont tu parlais où il débarque donc dans son ancien QG à Dunkerque et où en fait il fait une espèce de grande scène émouvante. Et donc on sait quand on connaît la saison, on sait qu'il y a un truc, il va se passer un truc, il y a un truc qui est pas net. Et en fait il sort et on le voit contre le mur se mettre à sourire, et il part. Et ça vraiment pour le coup, on disait tout à l'heure qu'il y avait on avait des bémols sur le manque d'écriture et d'implication. Il y a une vraie implication des acteurs. On parle de Cadmerade, mais moi Patrick Mill
On va y venir. Je vais vous poser une petite pause parce que dans la première saison, le grand méchant était Logier, Nils Arestrup. Il n'est pas dans la saison 2, mais nouveau personnage entre maintenant le centre, le Front National et l'extrême gauche.
Je n'ai pas quitté le PS par lassitude de la vie minoritaire, je l'ai quitté par conviction.
Il nous crache dessus et toi tu dis amen.
Un renversement d'alliance du PS vers le centre, ça c'est du jamais vu, non?
Je suis désolé, mais je suis plutôt un assistant.
Alors, dans le rôle de Mélenchon, disons-le comme ça, François Morel, l'homme du centre Pascal LB, et Patrick Mill, en homme du FM. Que valent ces nouveaux alliés méchants? On ne sait pas trop.
Il y a un côté effectivement miroir, mais qui est un peu un côté bébête chaud, quoi. C'est-à-dire qu'on les voit. Et oui, je fais des références des années 80. Vous me regardez avec mépris, mais
je n'étais pas né moi. Donc je...
Mais si vous voulez qu'on joue à ça, moi je n'étais vraiment pas né. Mais l'idée qui est intéressante, c'est qu'en fait, c'est des miroirs, mais c'est pas vraiment eux. C'est-à-dire que effectivement, François Morel imite une forme de Mélenchon, mais
la verve de Morel, sauf c'est quand même penser au discours de
sauf
Mélenchon.
Sauf que ça dépasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à créer des personnages. Je pense vraiment à Patrick Mill. Leur idée est assez forte parce que il était évident d'aller chercher, je sais pas, une espèce de, comme Catherine Jacob l'avait joué au cinéma, une espèce de sosie de Marine Le Pen. Ils choisissent donc Patrick Mill, qui est vraiment très convaincant, très inquiétant, et qui a cette capacité, à mon avis, de jouer la séduction du Front National, notamment dans le début. Il y a toute une scène dans la première épisode autour du débat entre Amélie Durandeau et donc ce candidat du Front National. Et c'est très malin, c'est qu'en fait, à chaque fois, il trouve un moyen de montrer ce qu'on ne devrait pas voir. Notamment dans la scène du débat, vous avez ce monologue des candidats, et normalement, on n'a pas le droit de montrer le contre-champ. C'est une règle des débats politiques, et là, la caméra le montre. Et donc, ça produit quelque chose, une sensation de voyeurisme, qui, à mon avis, participe à chaque fois du fait que ces personnages sont à la fois effectivement des gens qu'on reconnaît, mais en même temps, on les voit différemment. Et donc, c'est presque, si vous voulez, François Morel, une sorte de Mélenchon cool. Ce qui est quand même un truc un peu singulier, mais c'est un Mélenchon cool. C'est-à-dire
Mélenchon
que c'est.
Light.
C'est un Mélenchon light, ouais.
Ouais, moi je crois que vraiment il y a.
Et LB, un Bayrou sexy. Ce qui est un truc un peu.
Un Bayrou décolleté.
Un Bayrou décolleté, ouais.
Il y a quand même beaucoup de Mélenchon dans le personnage de Morel. Ouais. Moi je ne le rapporte pas ce crédit-là. Je crois vraiment qu'il y a des copier-coller, ça en fait partie. Je ne sais plus quelle autre critique soulignait le fait qu'à un moment donné il lui avait mis un journal de Libé dans les mains pour essayer de le différencier un petit peu de Mélenchon, parce que sinon ils avaient peut-être un petit peu peur du procès. Mais ce qui pose une vraie question, c'est à quel point on peut s'inspirer de la vie politique réelle pour faire une série télé. En France, c'est très compliqué. Baron Noir, pour moi, c'est la première série politique française qui marche à peu près. C'est-à-dire, vraiment, on y croit, elle est intéressante. Les subterfuges sont d'utiliser les vrais noms des partis politiques, ce qui en général était un vrai tabou, et les vrais médias. Ce qui, là, me pose un peu plus de problèmes parce que les journalistes en question sont rarement de bons acteurs et que là, parfois, on n'y croit pas beaucoup quand même.
Et l'Emmy Award va à Patrick Cohen dans la scène de C'est à vous.
Ah, bah moi, je vote pour lui. Ah, bah alors là, c'est bluffé.
Moi, je l'ai prescrit 5 saisons au cours Florent en urgence parce que ça va pas du tout. Quoi. Mais c'était assez.
Faisons les malins et qu'on nous mette. Non, qu'on fasse pas, surtout pas ça. Je suis pas sûr qu'on ferait beaucoup mieux en fait.
Dans un comédien, c'est un. Non, mais sinon, je crois que ça va être compliqué.
C'est autre chose. Ouais.
Et donc, on disait.
Oui, je trouve que. Ouais, donc il y a des petits subterfuges comme ça pour nous réinjecter un parallèle avec la vie politique réelle française. Mais sinon, je trouve que parfois c'est assez cosmétique leur différence.
Est-ce que c'est vraiment quand la série colle à la réalité qu'elle est bonne? Moi, j'ai l'impression que c'est quand elle raconte un truc qui est. Effectivement, on sait que c'est vrai, les manipulations politiques, tout ça. Mais moi, si je prenais vraiment la série au sérieux, j'aurais des problèmes de crédibilité. Je regarde pas Complément d'enquête ou Cache Investigation quand je regarde ça. Moi, je regarde une fiction, je regarde des personnages qui sont... Enfin, je veux dire, le personnage de Philippe Rigvart, évidemment, qui se sont inspirés des grandes tragédies shakespeariennes. Mais toujours, quand on fait de la politique, on parle de Shakespeare, parce que c'est la mise en scène, c'est la mise en scène de soi. Moi, je trouve que la série, elle est forte quand tout d'un coup, elle est vraiment à la frontière entre l'outrance de l'hyperfiction et puis une forme d'ironie documentaire où, effectivement, on cherche des clin d'œil, des choses comme ça. Mais Romain l'a dit au début, le problème c'est que Macron, pour ne pas le citer, a fait tout exploser. Donc à partir de là, en fait, il manque d'ailleurs dans la série, il manque ce personnage-là.
Mais c'est elle, non?
Est-ce que c'est elle?
C'est la présidente. C'est ce que j'en ai vu.
Un
mais après,
petit peu. Tu as projeté un fantasme macronien sur Anna Moulalis.
Je ne vous permets pas, mais non, je ne crois pas. Non,
je ne crois pas. Non, je trouve que ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est justement ce va-et-vient qu'on se pose tous. Hein. On se pose toute la question de savoir s'il y a un tel, c'est Mélenchon, un tel, c'est Bayrou, un tel, c'est un peu Macron. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé que c'était.
Pour moi, elle est clairement en marche. Mélie Laurent.
Peut-être plutôt dans son positionnement politique, plus que parce qu'elle l'incarne. Moi, j'ai beaucoup pensé au documentaire qu'il y avait eu sur Macron entre les deux.
La conquête, le pouvoir, voilà, je sais pas quoi, non.
Où là, on le voyait beaucoup plus engagé, beaucoup plus... qui écoutait plus ses communicants, en tout cas, qui les coachait, etc. Je la trouve très, très seule, moi, bizarrement, dans cette saison, le personnage d'Anna Moulalis.
Mais justement, le documentaire qui a été diffusé quelques jours, même, je crois que c'est le lendemain, si je ne me trompe pas, de l'élection d'Emmanuel Macron, c'était déjà un peu la saison 2 de Baron Noir. Il y avait une espèce de truc un peu surécrit, un peu surfait. Ce qui est marrant, c'est que Baron Noir en montre une sorte de making-of quasiment. On a l'impression de voir ce qu'on ne devrait pas voir. En même temps, c'est quand même très très mis en scène. On ne parle pas du personnage de député qui s'affronte notamment au fondamentalisme et qui va utiliser. Il se prend, mais il y a une scène très forte où le personnage copie un discours de Mitterrand. Je trouve que la série est vraiment plus forte quand elle sort de l'imitation pour raconter le mécanisme politique et pour raconter ce qui fait qu'on devient un homme politique.
Le jeune protégé Hugo de Baker, Rick Barthes, Hugo Baker.
Ouais. Qui est très très bien, je trouve, vraiment dans la série.
Très très bien. Qui était un peu en retrait dans la saison 1 et qui est vraiment...
Et qui a une sorte de comme ça, on pense, on va se dire ok, donc ils vont nous faire Manuel Valls. Et en fait non, il floute un peu les choses. Après, ce qui est quand même très fort, on l'a pas dit dans Baron Noir, c'est vraiment ça tient en haleine, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et surtout, je trouve qu'ils réussissent ça alors qu'ils font énormément d'ellipses. Ça va très très vite. On pense que le cœur de la série va être l'élection d'Amélie de Rondeau. En fait, c'est fait très vite. On pense que ça va être la constitution du gouvernement. En fait, c'est fait très vite. Donc il y a une accélération et ce qui donne une respiration à mon avis à cette saison 2.
En dehors des scènes de dîner avec des journalistes qui jouent mal, qu'est-ce que vous pensez des collisions entre la fiction et certains événements de la réalité? Il est quand même question de terrorisme aussi dans cette saison 2.
Moi, c'est la partie qui me pose le plus de problèmes. Elle a à gérer ça, et puis surtout, ça fictionnalise autour de ça. C'est-à-dire qu'on voit une espèce de red room où on voit la menace terroriste. Évidemment que c'est intéressant d'en parler. Je ne sais pas si, un, on est capable de faire vraiment ça en France, et deux, je ne sais pas si vraiment ce que ça raconte et la manière dont ça l'utilise, c'est pas un peu un recours au sentimentalisme et à une espèce d'effroi courant et quotidien pour faire de la fiction?
Moi, je trouve que la saison 2 répond à cette question, savoir si on sait faire ou on sait pas faire. On ne sait pas faire, c'est terrible, parce que évidemment, les images qui nous viennent en tête, c'est Homeland, des images d'House of Cards ou de Designated Survivor, absolument immonde série politique américaine.
Ou 24, hein, pour les plus vieux.
Exactement. Et là, c'est ridicule, parce que bon, peut-être que c'est un manque de moyens, tout est en plan serré pour pas qu'on voit qu'en fait, il y a juste deux écrans d'ordinateur allumés dans un pauvre bureau à l'arrière. C'est très très mal fait. Et puis surtout,
c'est pas dans l'imaginaire français.
Et d'une part, et en plus, on prend tellement de pincettes parce qu'il y a un trauma si fort dont on n'est pas sorti en fait. Et à tel point d'ailleurs que quand France 2 veut faire une série sur les attentats du Bataclan, elle renonce parce que la chaîne renonce et se dit que c'est trop tôt. Cette façon de vouloir récupérer le réel m'intéresse moins que lorsqu'il traite, par exemple dans la saison 1,
les conflits sociaux.
Ouais, voilà, de la formation professionnelle. Ouais. J'ai trouvé que c'était très très bien vu parce que c'était un truc dont chaque gouvernement parle depuis à peu près 30 ans pour parler un petit peu de politique et puis que personne ne fait. Et là, il prenait ça à bras le corps dans la saison 1. Alors, avec beaucoup de calculs politiques, etc. Mais en tout cas, il y avait une façon un peu de aller, on va se saisir de quelque chose que la politique française ne fait pas pour nous le faire à l'écran. Et je pense que ça doit être un petit kiff de scénariste de se dire, tous ces baltringues qui sont en pouvoir aujourd'hui, nous on va faire le job scénaristiquement et la série va le faire. Je trouve que c'était très très bien vu.
Quand la série est un peu ironique et qu'elle regarde de biais la société française, là je trouve qu'elle est vraiment très forte sur la question des attentats, du terrorisme. Évidemment qu'ils sont obligés d'y aller, mais je pense que c'était pas de transformer une espèce de menace, de thriller. Il y a une espèce de poids comme ça qui pèse sur la saison que je trouve, un peu obscène. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas cette série-là. C'est pas le Bureau des légendes, en fait. Moi, quand je vois cette scène-là, je me dis, mais en fait, c'est pas le Bureau des légendes. Et le Bureau des légendes fait le job parce qu'il fait le job de manière très politique et très travaillée. Là, on a l'impression qu'on est à la fois entre le problème, effectivement, du communautarisme, le problème d'offrir des ronds-points à des députés pour qu'ils votent une loi, et tout d'un coup, on nous dit, ah, au fait, il y a le terrorisme. Évidemment, c'est peut-être ça l'emploi du temps d'un président de la République, mais ça fait pas une fiction. Et je trouve que le Philippe Rigvart est en plus un personnage suffisamment à la fois détestable et en même temps attachant pour qu'on n'ait pas envie que ces personnages soient confrontés à ça.
Parce que disons quand même que le grand tour de force de cette saison, c'est de faire une saison en tension sur un personnage dont on sait qu'il est inéligible. Il sort de prison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand même...
Et surtout dont on sait qu'il va revenir, en fait. C'est un peu l'éternel retour. C'est-à-dire que c'est là où ils sont assez forts et je trouve que malgré tous les bémols qu'on soulève, il faut quand même reconnaître que c'est une saison de plutôt réussie. C'est que ça marche.
Alors, vous soulevez des bémols, hein. Moi, je soulève rien du tout.
C'est notre job.
Moi, je me contente de faire. Oui, je suis d'accord. Je vais pour vous.
Justement, c'est ça qui est fort. C'est que malgré tout ça, les caricatures, eh ben, en fait, on a envie de savoir où il va. Et puis, un peu comme dans House of Cards, auquel évidemment la série est comparée, en fait on a quand même très envie que ce type réussisse. Et je trouve qu'ils ont très intelligemment évincé la vieille génération, notamment donc Nils Arestrup, parce que c'était une manière aussi de montrer que la politique, c'est des gens qui disparaissent. Et ça, je trouve ça assez fort, cette manière de... Le personnage est éjecté. Alors, éjecté en fait pour des raisons très, très économiques, c'est qu'en fait, Arestrup, les scénaristes l'ont dit plus ou moins que c'était très compliqué, qu'ils avaient un tout petit rôle pour lui, qu'il avait pas là. Donc en fait, ils l'ont éjecté. Mais c'est très malin, c'est très fort la manière dont l'absence d'Arestrup, en fait, devient une sorte de moteur de la série.
Si je vous demande maintenant, messieurs, puisqu'on en a terminé avec Baron Noir saison 2, une recommandation.
Romain.
Parce que moi, si le reproche principal qu'on peut faire à cette saison de Baron Noir, c'est le manque d'humanité, moi je dirais aux gens, ceux qui ne l'ont pas déjà vu, d'aller voir The Good Wife, qui est une série politique et qui est une série qui est très très incarnée pour le coup, où il y a beaucoup plus d'humains.
Bah, oui.
C'est un peu le contrepoint justement de Baron Noir.
Je suis d'accord. Bah oui, c'est tellement bien The Good Wife.
Moi, j'ai joué la carte du grand écart. Je parlais tout à l'heure de western politique. Il y a tout un truc sur l'espace dont on n'a pas parlé, la manière de filmer, la plage de Dunkerque, les personnages qui. Le walk and talk. Bah, il y a ça aussi dans une série Netflix qui s'appelle Godless, qui est un vrai western de walk and talk aussi.
Série de Soderbergh ?
La série de. Mmh. Produite par Soderbergh, effectivement. Qui est un vrai western qui joue sur la fondation d'une société, le rapport à la politique dans une société. C'est évidemment, il y a un peu plus de chevaux, un peu plus d'indiens et un peu plus de massacres que dans Baron Noir.
Et mais... beaucoup moins de gens qui.
Il y a beaucoup moins d'Anna Mouglalis, mais bon, après ça, voilà. Moi, je vois Anna Mouglalis, elle lirait le bottin, je l'écouterais, je trouve sa voix incroyable.
D'ailleurs, à des moments, un petit peu, elle le lit d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mon
mais
conseil,
vous êtes méchant. Non,
mon conseil, c'est Anna Mouglalis, fais un CD où tu lis le bottin. Voilà.
Mais ça, ça va être votre recommandation du jour.
Non, c'est Godless sur Netflix.
Godless, The Good Wife.
Oui.
Je crois qu'on est sur un écart.
Ben, on est sur une Jean-Claude Van Damme.
C'est ça, on est sur une souplesse à la Jean-Claude Van Damme.
Exactement.
Et ben, Baron Noir, saison 2, c'est en ce moment sur Canal+. Et quoi qu'en disent mes camarades, je recommande chaudement. Vous aussi, quand même, non?
Oui.
On dit un truc sympa quand même.
Oui,
sur la
série. Alors, concrètement, c'est une série qu'on aime tellement, qu'on aime bien critiquer. Donc vraiment, elle est bien faite. Elle a quelques petites imperfections. J'ai envie de dire parce que c'est une série française, mais je suis très méchant. Mais non, mais elle a les mêmes défauts, par exemple.
C'est la victoire d'une saison 2 quand même. Je trouve par rapport à ça pourrait vraiment se planter totalement.
Et surtout qu'en fait, elle devait pas être évidente à écrire cette saison 2 justement.
Bon. Merci beaucoup, messieurs.
Mais de rien.
Merci, Renan Cros.
Avec grand plaisir.
Merci, Romain Burel.
Avec plaisir.
Le next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Je le faisais bien, non ?
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
Patrick Brion, bonjour.
Bonjour.
Merci encore une fois infiniment d'être avec nous dans Flashback.
Avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Mais cette dimension crépusculaire en fait un film absolument incontournable.
Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art.
Henri-Georges Clouzot, la légende noire du cinéma français, est à l'honneur à travers la ressortie de l'intégrale de ses films en salle.
Un rendez-vous à retrouver également sur toutes les applications podcast.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.